pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
De 2014 à 2016, durant deux années, une instance indépendante, nommée Commission nationale consultative des droits de l'homme, a enquêté sur la traite et l'exploitation des êtres humains. Pas au Soudan, ni en Birmanie, pas au Sri Lanka, ni en Chine, mais en France. Elle a rencontré de nombreuses associations d'aide aux victimes et dressé un état des lieux de la situation. Esclavage moderne, travail forcé des enfants ou des adolescents contre un mendier, travail forcé dans les ateliers clandestins, proxénétisme bien sûr, la liste est longue hélas, des façons imaginatives d'exploiter les autres, leur force de travail, de prendre possession de leur volonté et de les rendre dépendants matériellement et éventuellement moralement. La plupart du temps, précise ce rapport, les victimes ne s'identifient pas comme telles et saisissent rarement la justice. Quelques rares contre-exemples sont pourtant cités. Un exploitant forestier de 45 ans a été condamné en janvier 2015 à 2 ans de prison ferme pour avoir séquestré, extorqué et réduit quasiment en esclavage 2 jeunes hommes venus de son village natal au Maroc. Dans l'Essonne, une autre histoire a fait grand bruit en 2013 lorsqu'elle est apparue au grand jour. Joseph, surnommé Jojo, et Jean-Pierre, alias JP, travaillent dans une entreprise d'appât pour la pêche. Il transfère toute la journée des asticots d'une boîte à l'autre. JP a été récupéré à l'âge de 19 ans dans un foyer pour mineurs. Jojo, plus fragile intellectuellement, a été recruté, si on peut dire, directement dans un hôpital psychiatrique. JP, lui, a un droit de sortie pour les fêtes et le week-end. Jojo a le droit de voir sa sœur une fois par an. Ils vivront ainsi pendant 20 ans pour l'un et 40 pour l'autre dans une vague cabane humide au fond de l'entreprise familiale que Gérald a repris de ses parents. Le patron, lui, gagne 150 000 euros par an et il habite dans une maison avec une piscine qualifiée d'hollywoodienne par le président du tribunal. Les deux hommes travaillent parfois plus de 60 heures par semaine. Ils perçoivent un salaire annuel de 5 000 euros et 3 semaines de vacances. Le gérant de la société a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour traite d'êtres humains, et a versé également 125 000 euros de dommages et intérêts à chacune des victimes âgées lors du procès de 62 et 72 ans. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, des deux femmes que vous entendrez, la première a elle aussi obtenu reconnaissance du préjudice subi et aidé la seconde à faire valoir ses droits. Des récits recueillis par Pauline Perretz jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'étais arrivée de Philippines, c'était en novembre 1994. En fait, tout d'abord, aux Philippines, on pense que futur des enfants, avoir des vies meilleures. Et j'ai croisé une dame qui me disait vous le souhaitez partir à l'étranger, vous cherchez de l'argent, pourquoi pas en Europe. Et bien évidemment, la pauvreté nous pousse aussi, hein, moi m'avait poussé aussi de partir parce que je voyais les femmes qui partaient, qui revenaient, qui amènent vraiment. Donc je disais pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc j'ai accepté et j'ai disais, mais comment? Parce que je ne peux pas payer le voyage. Alors elle m'a dit, on peut très bien avancer et que vous payez plus tard. Donc elle a dit, Zita, tu peux partir à Paris. J'ai dit, à Paris? Bien évidemment, c'est la joie. Hein. J'ai disais, je vais partir à Paris. Mais j'ai jamais pensé, est-ce qu'il y a un travail qui m'attendait ou pas?
Donc vous cherchez du travail pour la rembourser.
J'ai cherché le travail. C'est elle-même qui avait trouvé un travail au départ. Mmh, voilà, pour moi, pour rembourser ses dettes et aussi de donner un peu d'argent pour mes enfants que j'avais laissés là-bas. Voilà, j'ai laissé avec une autre babysitter qui les a gardés, qui lave leurs vêtements, qui voilà, c'est très dur hein, parce qu'à l'époque mes filles jumelles et sont eu que 5 ans. Donc, en fait, cette somme, j'ai remboursé pendant pratiquement 3 ans de travail. Donc j'ai croisé cet employeur dans la rue, hein, au chômage de l'école de la fille que j'avais gardée, qu'il disait il cherchait quelqu'un qui peut garder ses enfants. Il m'avait proposé un salaire plus élevé que j'avais. Pour moi, c'est un avantage. Et que, enfin, je pourrais payer les dettes, justement, en causant mon voyage pour venir à Paris. Donc, voilà, j'ai accepté sa proposition. Voilà, j'ai démarré mon travail. C'était mois de septembre 1995.
Qu'est-ce
qu'ils
faisaient les
employés? La femme était, elle travaillait à la banque et le monsieur était un professeur à l'époque. Travailler au quotidien chez eux, c'est dur aussi. Hein. Je commençais à travailler de 6 heures du matin, je termine mes nuits, voire 1h, 2h du matin. Surtout si la dame est en déplacement. Parce que c'est moi qui s'occupe des enfants. Voilà, je les réveille le matin, faire leur toilette, donner un petit déjeuner, je les amène à l'école. Voilà, je fais les courses, je prépare le repas à midi. Je fais tout, en fait. Je fais le pressing. Aujourd'hui, en pensant tout ce qui s'est passé, en fait, c'est un calvaire. Parce que je n'avais pas de liberté. J'avais pas de liberté, c'est-à-dire que plus le temps pour moi. Et c'était comme je suis enfermée, en fait. Mais à l'époque, je connais pas, je croyais que c'était normal. J'ai rencontré les autres aussi, garde d'enfants, comme moi, au parc, parce que j'amène les enfants au parc, hein, même les jours fériés, même le dimanche. Donc, on échange aussi. Ils m'ont dit mais pourquoi tu travailles comme ça, t'es jamais libre le dimanche, c'est quoi ce travail, voilà. Ce sont des gens qui ont des moyens, mais qui ne respectent pas leurs salariés. Pourquoi j'ai dit ça, c'était parce que tout d'abord, à l'époque, le monsieur, et pourtant, c'est un proviseur. Hein. Il m'a accusé d'avoir volé sa carte bancaire alors que je ne sais même pas ce que ça a été. J'étais déjà maltraitée depuis au début. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le salaire que j'ai à chaque fin de mois.
Alors, il vous donnait du liquide ?
Il me donnait du liquide. J'étais payée en liquide à chaque fois. Donc, moi, je suis prisonnière de quelque chose. Et c'est pourquoi j'étais obligée d'accepter quelconque travail, la manière où il me traitait, en fait. Les relations avec les enfants, c'est un peu dur. Parce que quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de respect. Par exemple, quand elle mangeait, il crachait sur la table, tout ça. Mais j'ai dit, je ne peux pas voir ça. J'avais des enfants, mais je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai discuté avec mes employeurs. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que... Je constate que vos enfants n'ont pas de bonne manière de manger à table. Donc, je suis désolée. Si vous voulez que je reste, il faut m'aider à discipliner vos enfants. Et il y a le monsieur qui est un peu... Il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Parce que c'était comme j'ai dévancé leur responsabilité en tant que parent. Et je disais, écoutez-moi, monsieur, c'est quand même mon travail. Je suis avec vos enfants de tous les jours, bah, plus que tous les jours parce que je suis là jusqu'au soir. Donc, s'il n'y a pas de respect, je ne peux pas continuer à travailler avec vous. Et quand j'ai dit ça, petit à petit, avec les enfants, j'ai quand même réussi à apprendre comment on mange correctement à table, comment on respecte la personne en face de nous. Mais par contre, le plus grand est très dur. Et il me disait, t'as pas le droit de me dire ça, t'es payé pour ça. Voilà. Alors qu'il n'avait que 6 ans. Quand j'avais 2 ans d'ancienneté chez eux, la dame a dit je serais peut-être mutée ailleurs. Donc on aimerait bien obtenir votre régularisation afin que vous puissiez venir avec nous. Donc j'ai dit si, pourquoi pas. Donc ils ont pris mon passeport. Donc j'ai attendu, mais il n'y avait rien. Mais pendant cette période, en fait, il y avait déjà une somme qui était déduite de mon salaire. Pour payer, justement, il a dit que voilà, c'est pour payer l'avocat, c'était pas. Voilà, mais. Bah, j'ai accepté. Donc, c'était déduit. Donc, ça a encore diminué de plus mon salaire parce que pour payer mes dettes, pour payer. Normalement, il ne doit pas déduire les frais par rapport à la démarche. Mais comme dans ma tête, je suis sûre que je serai régularisée, donc c'était OK, oui madame, oui monsieur. Au bout de 10 mois, 1 an, j'ai constaté que rien n'était fait parce que là, il ne parle plus. Donc j'ai posé la question. C'était printemps. Elle m'avait demandé de faire un grand ménage chez eux. Et j'ai trouvé mon passeport dans un tiroir. Et c'est à partir de là que j'avais posé la question. Et le monsieur se met en colère. Et c'est à partir de là que ça ne fonctionne plus, parce que j'ai entendu que les colères, j'ai entendu la dame est en voyage aussi, si souvent. Et il cherche vraiment à savoir que j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il avait jeté la chaise.
Le mari.
Oui, le mari. Parce que en jetant une chaise... En envoyant une chaise comme ça et que pratiquement sur ma figure, si c'était pas coincé dans la porte, j'étais quand même heurtée. Donc j'ai dit, s'ils peuvent faire ça, ils peuvent me tuer. Pourquoi pas? Ou peut-être c'était juste pour me faire peur, je sais rien. C'est le lendemain de cet événement que j'ai quitté définitivement. Quand j'ai quitté le travail, l'employeur a raconté aux enfants que j'avais volé les bijoux, voilà. Et là, j'ai appelé. J'ai contacté mon employeur. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai appris que vous racontez à vos enfants que j'avais volé vos bijoux dans votre appartement, alors que j'ai travaillé presque 4 ans chez vous. J'ai élevé vos enfants comme mes propres enfants. Je vous ai respecté, mais en fin de compte, vous m'accusez de vol. Là, je ne pardonne pas. Je souhaite récupérer mon passeport et je souhaite être payée par rapport à la différence de salaire que vous m'avez pas versée. Et parce que j'étais très en colère à ce moment-là déjà. Et il m'a dit. J'ai rien à vous payer, j'ai rien à vous rendre. Ok, gardez mon passeport, gardez votre argent et on se retrouve au tribunal. Et j'ai raccroché au nez. Et on s'est vraiment retrouvés au tribunal. Donc la CFDT m'a aidé à monter le dossier. Donc il m'avait accompagné au tribunal, au prud'homme, jusqu'à la cour d'appel. Parce qu'avant le jugement au prud'homme, elle m'avait proposé d'argent aussi. Combien de sommes voulez-vous de laisser tomber déjà l'affaire? Et je disais, c'est aujourd'hui qu'elle me demande ça, alors quand je demandais d'être payée. Elle a dit qu'il n'y aura rien à payer, même mon passeport, elle a toujours gardé. Et je disais, non, je n'ai pas de somme, j'ai besoin de la réalité de justice. Donc j'ai gagné à la cour d'appel, enfin, et c'était en 2013. Et en 2003, j'ai milité déjà à la CFDT. Voilà, je suis engagée à faire le militantisme afin que je puisse faire sortir aussi ces travailleurs-là dans une situation invisible.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, Fatou, vous êtes arrivée quand du Burkina ?
Alors, je suis arrivée en 2000, en juillet 2000, suite au décès de mon employeur. J'ai perdu mon travail. J'étais secrétaire de direction. Alors, j'ai décidé de venir en France. Il y a une amie qui m'a encouragée à venir pour tenter l'aventure avec elle. Donc, c'est elle justement qui m'a trouvé le travail. D'abord, c'était une personne âgée, parce qu'elle s'occupait de la petite fille, en fait. La mamie était en province. Donc, moi, j'ai fait 3 mois en Normandie avec cette dame-là. La personne âgée, elle était handicapée. Donc, il fallait la porter. Il n'y avait rien de. En dehors de son lit, à la campagne, elle avait un lit médicalisé. Mais quand nous sommes revenus à Paris, il n'y avait pas de lit médicalisé. Donc, c'était trop bas. Et comme elle ne marche pas du tout, il faut la porter dans son fauteuil pour la mettre dans le lit. Mais moi, pour la mamie, elle m'avait proposé 1 200 € par mois. Ouais. Et je ne sortais pas. Hein. On était enfermés 7 jours sur 7. Je travaillais du lundi au dimanche, mais non-stop en fait. Et après, quand sa nounou a arrêté le travail, elle m'a demandé de venir m'occuper de la petite.
Ça, c'est à Paris.
Ça, c'est à Paris. Donc, je gardais les deux pour le prix, le même prix, 1 200. Pendant 3 ans, j'ai pas eu de congé. De toute façon, c'est la chanson. De toute façon, on vous nourrit, on vous loge. On ne vous déclare pas parce qu'on veut vous rendre service. Alors que le service, c'était pas moi, c'était elle. Parce que toutes celles qu'elle a toujours embauchées, elle n'a jamais déclaré qui que ce soit. Je me réveille le matin quand elle est debout et jusqu'au soir à 23h quand sa maman elle se couche. Pas avant. 7 jours sur 7. Et les week-ends, ça pouvait aller jusqu'à minuit parce qu'elle aimait bien regarder les émissions. Quand il y avait des trucs, le cabaret, machin. Tant que l'émission n'est pas finie, on n'est pas couché. Je faisais et les courses, je faisais à manger, je faisais le ménage parce qu'ils avaient un pavillon duplex. Donc je faisais tout. Et le jardin, des fois, ils me demandaient de laver la terrasse et tout. Et même les carreaux et tout, il faut monter sur une échelle pour les laver. Elle savait que j'avais un problème d'eau. Même après mes infiltrations, le jour que je faisais mes infiltrations, je lui disais, bah, normalement, je ne dois pas porter quelque chose de lourd. Mais elle ne couchait pas sa mère. J'étais obligée de la coucher, la mère.
Seule?
Seule, oui. Seule. Le papa, il travaillait à une journaliste presse écrite, je crois. Et la mère, elle était rédactrice en chef de l'émission. Et la mère, il y a des semaines quand elle est en enregistrement, 2h du matin, des fois même le matin, au petit matin, à 4h qu'elle rentre. Quand je prenais ma douche, je lavais mes culottes. Elle partait, elle les soulevait pour regarder. Et elle me parlait de. Je n'avais pas de vie. J'avais plus de vie en fait avec elle.
Sur les culottes.
Elle me dit, ah, vous êtes allée à l'hôpital hier, c'est cette culotte que vous avez portée. Et un soir, ça m'a fait mal. Et un soir, je lui ai dit, vous savez, moi, après 22 heures, après votre travail, même si je me mets dans la rue devant chez vous à me prostituer, ça, c'est ma vie. Ça ne vous concerne plus du tout. Donc, ce que je fais de ma vie, c'est mon problème. Ce n'est pas le vôtre. Et ne croyez pas, je dis, vous avez 3 ans de plus que moi. Ne pensez pas que je ne peux pas chercher un homme. Mais là, pour le moment, je n'ai pas la tête à ça. Mais sinon, j'ai droit à cette vie aussi. Et le monsieur, au bout de 3 ans, c'est en 2003 qu'il a perdu son travail. Et quand il a perdu son travail, c'est là où ça a commencé à tourner. Un soir, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, vous savez, moi, si votre mari s'énerve, je veux bien qu'il me dise tout ce qu'il a à me dire. Mais à chaque fois, me chanter qu'il va me foutre dehors, j'ai dit, moi, je n'aime pas ce genre de propos. Et à plusieurs reprises, il dit à sa petite de ne pas manger avec moi, parce que les Africains, ils mangent n'importe quoi. Pourtant, lui, il est algérien. C'est en 2004 que je lui ai demandé, parce que mon dos, il était plus, c'était plus supportable que le médecin.
Vous aviez quoi, des douleurs dans le dos?
Des douleurs dans le dos. En fait, j'ai les nerfs qui se tassent sur les vertèbres qui se tassent sur les nerfs. Et le médecin, il m'a dit que, voilà, il fallait que je diminue le travail. Donc, je lui ai demandé de me trouver une remplaçante. Et là aussi, pareil, elle m'a dit, c'est vous qui devez le chercher. Après l'opération, j'avais peur de retourner pour soulever sa maman. J'avais sans papier, j'avais du mal à trouver. Et je suis tombée sur une famille dans le 13e. Donc c'était un jeune couple avec trois enfants. L'aîné plus les jumeaux en bas âge. Donc j'ai discuté avec la femme, le monsieur n'était pas là. Donc j'ai discuté avec elle. Là, elle me propose 1200. Il faut faire le ménage, le repassage. Et que elle, comme elle est commerçante, elle me donnera un peu d'espèces, peut-être une fois toutes les semaines. Et puis après, elle verra le reste avec son mari. Donc le lundi, quand je suis arrivée, le mari m'a dit clairement qu'il ne pouvait pas déclarer parce que eux, ça les revient cher. Et du coup, la première semaine, j'ai travaillé, ils m'ont donné 300 euros en espèces. Deuxième semaine, ils m'ont donné des chèques, il y avait au moins une dizaine de chèques.
De clients.
Et là, elle me dit, oui, c'est des chèques sans ordre, mais si vous vous mettez, vous encaissez sans problème. Moi, je ne m'y connais pas, donc du coup, j'ai pris sans problème. Et à chaque fois qu'ils me donnaient les chèques, je les photocopiais avant d'aller les déposer sur le compte. Et donc, ça a duré 4 ans et demi. Au début, il n'y avait pas le samedi. Après, elle me demandait de venir quand même samedi de 10h à 15h. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de payer mon loyer, ça me venait cher.
Et ça, c'était payé en plus?
Non, c'était pas payé en plus, hein. Ça faisait partie des 1200. Et j'arrivais le matin, je disais bonjour. La femme, elle m'a toujours dit bonjour. Même si elle est arrogante, elle a toujours dit bonjour. Mais par contre, le mari, je rentre le matin, je dis bonjour. À peine, il me regarde, il répond pas. Et quand il parle, quand j'ai un retard de train, ah là, c'est mal parti. On vous parle comme si vous étiez un chien. Et une fois, j'étais obligée de dire à la femme, j'ai dit, ne me criez pas dessus parce que je ne suis pas votre chienne. Ah, mais reconnaissez que vous avez une forte personnalité. Je ne dis pas du tout. Je dis, je sais que j'ai un caractère. Mais il faut me pousser à bout pour découvrir ce visage, le deuxième visage de moi. Je dis, je vous respecte. Depuis que je suis avec vous, je vous respecte. Je vous ai déjà crié dessus? Jamais. Vous ne parlez même pas à vos enfants comme vous le faites avec moi. Je dis, pourquoi vous n'avez pas de respect pour les autres? Elle me dit, de toute façon, aujourd'hui, je vous dis, Steph est parti, mon mari est parti, il n'est plus là. Désormais, vous allez être samedi toute la journée ici. Et comme ça, je vous donnerai une demi-journée le lundi. C'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, vous arrêtez le travail. J'ai dit, vous savez, j'ai dit sur le champ, je vais vous dire que les courses, je ne les ferai plus. Et puis, je ne verrai pas samedi toute la journée. Ça, c'est ma dernière parole. À partir de là, j'ai commencé à déposer les annonces de gauche à droite. J'ai commencé à faire mes entretiens. Et le mardi, je dis, attends, je vais chercher sur Internet, je vais appeler. Donc, j'ai fait le numéro de la CFDT. Et 2 heures après, Zita m'a appelé. Elle me dit, il faut que vous vous syndiquez tout de suite. Et là, dans ses calculs, elle me dit, c'est quand même grave ce qu'ils ont fait. Parce que rien que avec l'inspection du travail, ils risquent de payer 55 000 euros. De pas avoir, parce que c'est fraude fiscale. Et vous, qu'est-ce que vous attendez d'elle? On peut lui mettre la pression pour qu'elle vous fasse toutes ces fiches de paix, là, toutes les années que vous avez faites. On lui réclame les indemnités parce qu'effectivement, elle aussi, elle ne payait pas les vacances. Du coup, la juriste, elle a pris contact avec l'avocat
de la femme.
Il a envoyé un courrier lui proposant de me payer. Il a proposé 9 000 euros.
Comme arrangement, quoi.
Voilà. Et j'ai déposé ça en octobre 2011. Je crois que son avocat a dû lui dire, si tu laisses traîner, si vous allez au prud'homme, t'es perdante et tout. Qu'elle a fait une proposition de 9 000 euros. Je dis d'accord. Et donc aujourd'hui, voilà, je me suis Zita. Et grâce à elle, justement, j'ai eu le courage de m'aventurer dans les... Voilà, c'est un truc que j'ai pris comme ça, à bras le corps, mais avec des doutes. Bon. Et pourtant, je sais que j'ai les capacités, mes employeurs me le disent, mais vous êtes fait pour ce travail-là. Ah, c'était pas simple. J'ai un grand ouf. Soulagée, mais toujours en colère.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, esclaves domestiques, deux récits recueillis par Pauline Perrette et réalisés par Philippe Baudouin. Merci à Zita Cabet-Aubra et à Fatou. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos réactions et vos partages avec impatience.